terre.
Ça c'est le... Garde-le aussi ça.
C'est top. T'as vu ce que c'était?
Oui, Tuspers. Oui.
Effectivement, bah, il doit en avoir d'autres.
Hein. Épisode 1. À la réunion de l'écume des nuages, au son du lagon, protéger ne suffit pas.
Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour ce nouveau voyage sonore au long cours dans le monde d'avant. De la Laponie à l'Altiplano, de Chayapata à Biaoveja, une bouffée d'air frais dans des paysages à couper le souffle, avant qu'il ne soit trop tard. Car si l'urgence pandémique peut se dissiper, l'urgence climatique, elle, se fait de plus en plus pressante, avec son lot d'injustices sociales. Car on va l'entendre, ce qu'ont en commun un éleveur de rennes Sami du nord de la Suède et un pêcheur Ouru des hauts plateaux boliviens, c'est que ces deux représentants de peuples premiers sont justement aux premières loges du changement climatique. L'un comme l'autre voit leurs conditions même d'existence disparaître en même temps que leur paysage. Et c'est ces histoires que je vous propose de découvrir cet été. Sous les tropiques, comme au-delà du cercle polaire, dans des écosystèmes miraculeusement préservés, et d'autres à jamais disparus, avec ceux qui luttent contre la destruction du monde d'avant. Alors nous allons commencer ce bout de voyage à La Réunion. Département français, si loin au milieu de l'océan Indien, un des volcans les plus actifs au monde, qui est aussi un formidable cas d'école. C'est un trésor de biodiversité où l'on peut lire tous les bouleversements occasionnés par l'homme depuis l'arrivée des premiers colons en 1663, et les bouleversements vont en s'accélérant. On va dans un environnement exceptionnel donc, mais si les 100 000 hectares de pitons, cirques et remparts volcaniques qui recouvrent près de 40% de l'île ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO voilà plus de 10 ans, il ne suffit pas de mettre la nature sous cloche pour la préserver. Même protégés, ces paysages et leur biodiversité unique sont aujourd'hui menacés par les activités humaines. Alors jusqu'à 19h sur France Inter, de l'écume des nuages au son du lagon, la réunion de haut en bas, protégés ne suffit pas.
Aïe, 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 maloya dans la vie, ouais.
Aïe, aïe, aïe,
maloya soigne le corps, ouais.
Aïe, 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 aïe,
maloya, maloya.
France Inter, sur le piton de la Fournaise.
Là, si je devais décrire dans quel pays on est, je vous avoue que je serais bien incapable.
À 13 000 km de Paris, dans un minuscule archipel sous le tropique du Capricorne.
Vous êtes à La Réunion. Bienvenue.
L'île de La Réunion, département français d'outre-mer.
Moi, je m'appelle Jean-Philippe Delange, je suis directeur de l'établissement public du parc national de La Réunion.
C'est très très beau parce qu'on voit toute cette végétation très luxuriante accrochée à même les rochers.
On change de végétation tous les 200-300 mètres.
Ces altitudes abritent 230 espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs, comme le tamarin ou la fougère.
Et avec là,
oh la vache, c'est beau là, excusez-moi, je vous coupe là.
Le piton des neiges là-bas.
Tout au loin là.
Ouais, tout au loin, le plus haut sommet de La Réunion. C'est un parc national, voilà, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
En effet, le caractère exceptionnel des paysages justifie aujourd'hui la place de l'île de La Réunion au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les monuments à La Réunion sont vraiment des monuments naturels. C'est eux qui constituent la valeur universelle exceptionnelle. Donc c'est ça qu'il faut d'une part qu'on protège, d'autre part qu'on valorise. ça, on va regarder la plaine des sables. Encore quelque chose de sang, tu vois.
Hop. Ah, c'est des pierres, un amoncellement de pierres rouges vives, bordeaux, lit de vin. Et ça monte.
Là, on est vraiment en haute montagne, on est vraiment en altitude.
Et alors là, tout d'un coup, on fait quelques mètres, on monte sur une arête et le paysage change du tout au tout. Et le vent aussi, là.
Le vent est assez redoutable ici. Ouais. C'est complètement lunaire, c'est complètement improbable comme paysage, c'est superbe.
Ouais, pour décrire, c'est une espèce de plaine. Ouais, c'est martien, quoi. C'est les photos qu'on a vues avec Mars Explorer.
Exactement.
Cette terre rouge, sans une seule trace de végétation, avec quelques rochers qu'on voit qui ont été un peu polis par l'érosion avec le temps.
Donc ici, on est vraiment dans je dirais, une des pépites de La Réunion, qui en compte quand même pas mal, mais là, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. On voit bien hein, les remparts qui descendent sur quasiment 200 mètres. En face, il y a le Dolomieu, donc, qui est le haut du volcan. Là, vous avez en face de vous ce qu'on appelle la caldeira, qui est en fait remplie par les coulées de lave. Et en face, c'est complètement lunaire, avec une petite touffe de végétation à droite à gauche, et puis les petits points, c'est les gens. Donc c'est là où on se doit d'avoir quelque chose qui ne vienne pas en fait être en interférence avec ça, parce qu'il y a besoin de rien à part ça. Et puis faire attention aussi à ce que tout ce qui est au niveau de la biodiversité, notamment végétale ici, qui est exceptionnelle, soit préservé, qu'on arrive à contenir la problématique des espèces exotiques envahissantes qui n'ont strictement rien à faire ici, même si là il y en a quelques-unes, vous voyez, ce qui ressemble à des pâquerettes là.
Une biodiversité aujourd'hui menacée par les espèces exotiques envahissantes. Depuis 2017, l'état du parc national est devenu préoccupant.
Et le problème, c'est que ça diffuse quoi, dans le territoire, ce truc-là. Souvent, les gens nous disent, il y a des exotiques envahissantes, arrachez-les. Ok, d'accord, on arrache, mais qu'est-ce qui arrive derrière une exotique envahissante? Une autre exotique envahissante. Donc si vous ne faites pas de la restauration derrière, ça ne fonctionne pas. Et là, il va y avoir un travail d'arrachage, un travail de nettoyage, et derrière un travail de revégétalisation avec des espèces endémiques. Ce qui n'a jamais été fait à cette altitude. Fatigué?
C'est la fin, ouais, la montée.
Là, vous revenez du volcan?
C'est ça. Ça a pris un peu de temps. 5 heures aller-retour.
Vous êtes réunionnaise?
Oui, je viens de Saint-Louis. Mais là, c'est la première fois que je fais la randonnée. Ouais. Donc, je suis super contente de l'avoir faite.
Et alors, sur les préoccupations environnementales, où vous en êtes, vous?
Alors, je travaille là-dedans. Je fais mes études en environnement. Donc, c'est vraiment une question importante que les gens y fassent attention. On a la chance d'être sur une île. Il faut la préserver. On se calme sur notre consommation, qu'on réfléchit un tout petit peu plus à ce qu'on achète, à ce qu'on fait. J'essaie de le faire à mon niveau, au niveau de ma famille, au niveau de mes amis. Donc,
vous leur dites quoi par exemple?
Là, la question avec mes parents, c'était juste le tri, de consommer moins de plastique, moins d'emballage, d'acheter un peu plus en vrac, un peu plus chez le producteur d'à côté. Donc voilà, moi c'est ce que j'essaie de faire avec mes parents en ce moment.
Ah ben, pendant qu'on a parlé, là c'est impressionnant parce que on voit plus le volcan. Il y a un nuage qui est en train d'avancer à vitesse grand V.
C'est la Réunion.
Et le volcan est en train de disparaître sous un magnifique nuage là qui va bientôt nous submerger.
C'est ça.
Merci beaucoup, Maëva.
De rien, bonne journée.
Au revoir, bonne route.
Au revoir.
Au revoir, merci.
On va par là. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'ici, c'est un peu un laboratoire aussi de ces nouvelles pratiques sur comment valoriser la relation entre tout simplement notre monde développé de touristes et de consommateurs de nature et la biodiversité et l'environnement.
Au-delà du fait que ça soit patrimoine mondial de l'UNESCO, hotspot de biodiversité, ça nous donne un petit peu la direction et je dirais l'ambition qu'on doit avoir pour ce territoire. Après, ce qui est vraiment de très particulier à La Réunion, c'est que le territoire il est complètement circonscrit. Il est tout là, on sait quelles sont les limites de ce territoire. Agir à l'échelle de l'île, agir aussi sur le périmètre urbain, agir en dehors des limites du territoire classé, agir avec l'ensemble de la population, c'est pas simplement une question de spécialiste, c'est la responsabilité de tout le monde, mais encore faut-il que tout le monde en ait conscience. Donc c'est ça qu'il faut travailler en premier, en fait.
On est un peu essoufflé parce qu'on est monté.
Ça s'appelle Python Partage. Un petit piton, justement, qui est en bord de cratère.
On ne peut pas monter plus haut déjà.
Pas monter plus haut, mais c'est une vue incroyable parce qu'on a le cône du Dolomieux.
Magnifique.
La caldeira à droite.
Merveilleux.
Les grandes pentes qui descendent jusqu'au littoral ici.
Et ça, c'est la mer là-bas, là ?
Et la mer est en bas.
C'est extraordinaire.
On est au sommet de l'île et on voit le littoral.
Voilà. Sauf que tout ce qu'on voit de l'eau là où on est, c'est un nuage, puisqu'on est au milieu, perché au milieu d'un nuage.
Ouais, c'est les gros nuages qui montent en fin d'après-midi, là, de la mer, justement. Et là, on est en plein nuage. On est dans le nuage qui monte.
Et on peut deviner, justement, tout ce magnifique paysage qui est donc patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire qui doit être préservé en tant que tel.
Exactement. Pour nous, pour les générations futures, et puis parce que, quelque part, ça fait partie de nous aussi. Si on perd ça, on se perd un peu. C'est à ça qu'il faut faire attention. Se relier à ça, je pense que c'est important,
ouais. Ouais, sans virer dans le New Age.
Non, sans virer dans le New Age, bien sûr.
Mais là, mais... c'est sortir du consommable.
Effectivement, sans faire dans le... s'ouvrir les chakras au sommet de la montagne. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est un peu vital. On voit bien qu'on est dans un modèle qui va un peu dans le mur, quoi, avec tout vouloir tout le temps et au maximum, même au-delà, jusqu'au dégoût. Donc je pense que la frugalité, hein, c'est quelque chose qu'il faut qu'on retrouve. Et puis c'est bon pour la santé, en plus. Donc revenir à ce qui est important, parce que quand il y en a moins, on apprécie mieux, ça fait plus plaisir, en fait.
Quand il y en a moins, il y en a plus.
Ouais, quand il y en a moins, il y en a plus. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Et c'est un peu aussi comme ça qu'il faut gérer les choses. En redonnant du sens à ce qu'il y en a réellement, quoi. Sans sortir.
Et là, il y a mon téléphone qui sonne. Vous imaginez
c'est
ça
pas terrible, hein.
On essaye de faire un truc, un peu de prendre de la hauteur et de l'élévation. Et c'est le bureau qui m'appelle à Paris.
Ah.
J'ai oublié de mettre en mode avion.
La technologie, ça serait bien d'avoir des zones blanches aussi.
Ouais. Bon, maintenant que j'ai éteint mon téléphone, je vais essayer un truc, c'est d'enregistrer le silence. Parce qu'on est loin de la route. Le prochain supermarché est à quelques dizaines de kilomètres. Alors je vous laisse filer devant et je vous rejoins. On entend un peu le bruit du vent dans les capsules du microphone. Pas un oiseau, pas une vache, pas un chien, pas une voiture. Tout en haut du volcan, le vrai silence du monde d'avant. Bientôt, ça va être rare et cher, ce que vous entendez là.
Je reviens du monde d'avant.
Allez, on redescend. On redescend vers le bruit, la chaleur, le béton, la mer et le bruit des hommes.
Sur France Inter, à la Réunion de haut en bas.
Famille Monzon, 7, il veut m'y enseigner l'amour. Pas besoin ou la paix, mon anif. Mika, il travaille l'esprit. K, comme fille. Protège la case qui s'adonne. Il casse le sort. Service, il résiste pas moins. Rien pas cachette poule noire dans mon assiette manger. Mauvais causement si ou même va-t-on. Croisé de chemin mis en barbe bête. Là-haut brûlé mis empêche volcan débordé. Migain guérit le zame, vivant comme mort. Si tu brilles la bougie mauvais côté, mani souffle.
Un champ de lave.
Coulé 2007.
C'est ça là.
Oui.
On est sur la côte est, là de...
Oui, là, on est plein est. Hein. On a l'océan et puis devant nous, le piton de la Fournaise là, qui culmine à plus de 2600 mètres.
Qui est caché dans les nuages. Mais là, on voit une espèce de traînée qui fait comme une coupure dans le paysage. Parce que d'un côté, il y a une falaise. Mm-hmm. De l'autre côté, on voit de la végétation, une espèce de plaine un peu savane. Et puis entre les deux, il y a cette énorme coulée sur laquelle on marche, là, qui... toute noire.
En gratton, là, les blocs...
Gratton, vous appelez ça? Ouais, c'est de la lave. C'est comme une pierre ponce très coupante.
Voilà, ouais, c'est très coupant. Donc, je suis Dominique Strasberg, donc, professeur à l'Université de La Réunion en écologie terrestre. Et question de flore, de faune et de protection de la nature.
Ce que vous dites, c'est que là, sous nos pieds, auparavant, il y avait une forêt tropicale endémique.
Ben, on avait une forêt qui était remarquable, parce que c'est en gros la dernière forêt littorale de l'île. L'activité du volcan préserve les milieux naturels qui sont installés sur ces laves.
Sauf voilà. Ce coup-ci.
Sauf ce coup-ci, où la lave est passée par-dessus. On ne s'y attendait pas, mais ça nous a brisé le cœur, parce que c'était un petit peu notre laboratoire grandeur nature. Mais surtout, on avait un témoin de ce qu'était la forêt en bord de mer, avec des très grands arbres.
Oui, parce que ça fait des centaines de milliers d'années qu'il y a des coulées de lave ici à La Réunion qui calcinent toute une partie du paysage, mais qu'à chaque fois, ça redémarre. Sauf que quand ça démarre plus comme avant, et ça démarre avec Des
espèces invasives, c'est un terme emprunté des anglo-saxons, mais les espèces exotiques envahissantes, le terme.
Ça, c'est une fougère d'ici ou pas?
Oui, ça, c'est une fougère indigène. On va retrouver. Mais même chez les fougères, on a des soucis. On en voit une juste à côté. Ouais. Avec des fougères échappées de jardin, qui sont des exotiques décoratives, qui sont capables aussi de concurrencer ces fougères indigènes.
Alors on pourrait dire c'est pas grave, ça amène d'autres végétations, c'est pas plus mal.
C'est écrit, j'ai des collègues qui partagent ce point de vue. Donc après, si on suit ça sur plusieurs années, malheureusement, on constate que ces espèces, on n'a rien contre, mais elles sont capables de modifier des processus écologiques importants. Elles vont changer, par exemple, la chimie du sol. Elles vont bloquer l'installation de plantes. Et donc, c'est l'impact, les réactions un peu en chaîne, en cascade que vont générer ces espèces. Aujourd'hui, on les connaît très mal. Et le nombre combiné à tout le reste, on va vers un appauvrissement de la diversité et une perte du fonctionnement de nos écosystèmes indigènes.
C'est les mécanismes de réparation qui sont enrayés maintenant.
Complètement, oui. Les plantes exotiques, même si elles sont venues de très loin, elles sont capables de coloniser tous les habitats créés par l'homme, mais aussi des habitats neufs créés par le volcan.
C'est impressionnant parce que là on est dans des sous-bois vraiment très touffus, avec des souches d'arbres moisies. Et on se fait accrocher par les branches, par les fougères, par les épines. Et on entend les oiseaux. Et elle a joué un piaf tout joli là, avec des petites plumes rouges, orangées.
Ouais, d'eau orange avec des plumes bleutées sur la tête. Donc, oiseau la vierge ici. Ces oiseaux, vous allez voir, on les appelle les oiseaux naïfs, parce qu'ils ont, quand ils voient des randonneurs, ils viennent vers nous, ils n'ont aucune crainte des prédateurs. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un prédateur.
Ils sont presque curieux de venir nous voir là. Ils nous regardent là, juste sur la petite branche. C'est génial cet endroit. Entre ce tapis de végétation qui recouvre chaque centimètre. Parce que partout, il y a des mousses, des fougères ou des racines. Si je comprends bien, vous m'avez emmené ici, Dominique Strasberg, dans un petit bout de forêt tel qu'elle était avant l'arrivée des colons occidentaux, à peine plus de 300 ans.
On a la chance d'être dans l'une des dernières reliques de forêts de basse altitude, des forêts installées bien avant l'arrivée de l'homme, qui descend presque jusqu'à la mer, la fameuse forêt de Marlong, en cœur de parc national. Donc c'est là où on va trouver les plus beaux arbres de l'île, avec une grande variété d'indigènes qui sont là depuis des siècles. Ici, on est sur une coulée de lave. Donc.
C'est pour ça que là, on marche sur une espèce de pavage.
On voit des tunnels de lave.
Un peu comme des marches. Même si c'est dérapant parce qu'il y a de la mousse partout, des feuilles mortes et des feuilles de fougères en décomposition.
Et ce qui est impressionnant, c'est de voir cette coulée où il n'y a pas de sol. En gros, elle porte quand même une forêt avec un bon millier d'arbres à l'hectare, avec plus de 40 espèces d'arbres à l'hectare. Et sur ces arbres, encore des dizaines, voire des centaines d'autres formes de vie, des orchidées, des fougères, des mousses. Et la faune nombreuse et discrète qui se cache dans cet écosystème. Donc une forêt tropicale à basse altitude sur une coulée de lave, dans une île au milieu de l'océan Indien, c'est unique au monde, on en est fier et on essaye de la préserver à long terme, c'est pas gagné.
Bienvenue dans une des dernières forêts primaires de la Réunion. Un petit paradis que l'homme n'a presque pas touché.
J'ai inquiétant, c'est l'absence de régénération de ces forêts. Donc même mises sous cloche dans un espace protégé, on s'aperçoit que leur régénération elle est sérieusement remise en question. Donc là, c'est une forêt de vieux arbres et il manque tous les jeunes derrière. Donc pour ça, il faut demander à Sébastien.
Il a pensé à joindre vos élèves là qui est derrière en train de ramasser des feuilles qui dégrènent.
Je vais juste mettre ça dans la poche, histoire que ça.
Et j'entends des moustiques qui passent de temps. Je les vois pas, mais je les entends dans mon micro.
Donc je m'appelle Sébastien Albert, je suis doctorant à l'Université de La Réunion. Et donc je cherche ce qui pose problème pour nos espèces à se régénérer dans nos forêts.
Comment ça marche en fait une forêt d'ici, une forêt tropicale de La Réunion?
Disons que tout est interconnecté. Et quand on enlève certaines pièces qui jouent un rôle central dans l'écosystème, ça peut avoir des conséquences importantes. Par exemple, on cherche à comprendre dans quelle mesure l'extinction des frugivores dans l'archipel.
Les frugivores, c'est-à-dire c'est les vertébrés mangeurs de fruits.
Oui. Donc entraînent des gros problèmes pour les espèces à se régénérer donc aujourd'hui.
Et c'est quoi par exemple comme animaux qui ont disparu ici ?
On avait des tortues géantes terrestres, donc qui pouvaient probablement faire 150 kilos. Bon, et donc on sait que ces tortues avalaient des fruits de grande taille, et une fois qu'elles les avaient dans l'estomac, elles étaient capables de faire un certain bout de chemin avec, et donc avec une dissémination très efficace. Riche chez les mammifères, on avait des chauves-souris frugivores, donc c'est 90 cm d'envergure. On avait des lézards de très grande taille, mais surtout on avait des oiseaux, beaucoup d'oiseaux. On avait au moins 4 espèces de perroquets, des huppes, puis on avait des passereaux de plus petite taille. Ces populations mangeaient énormément de fruits et donc contribuaient à disséminer des graines en grande quantité. Donc tout ce dont je parle est éteint depuis à peu près 1800 à La Réunion. Il faut bien comprendre ça, quoi.
C'est-à-dire peu de temps après l'arrivée des colons.
En 130 ans, on a perdu presque toutes les espèces que je suis en train d'évoquer, disparition. Quelques tortues qui ont survécu jusqu'à 1840. Mais dans la forêt où on se trouve actuellement, malheureusement, ça fait plus de 220 ans qu'on considère qu'elle est fonctionnellement éteinte, quoi.
C'est-à-dire que c'est ça, si je comprends bien. Les arbres sont toujours là.
Oui, exactement.
Ils continuent à produire des fruits.
Exactement.
Mais parce que les animaux ont été supprimés par les hommes, la forêt stagne. Elle ne se régénère pas.
Voilà, et donc on en vient au cœur du problème. Et on a un très bel exemple donc à un mètre de nous, puisqu'on a une espèce d'ébénier endémique.
Hein,
donc,
c'est ça, là.
Voilà, hein, en créole, le bois noir des hauts. Donc là, j'ai un reste de fruits dans la main.
Donc ça ressemble un peu à une boque de noix.
Et donc le drame avec cette espèce, eh bien, c'est que tous les animaux donc, indigènes qui s'en nourrissaient et donc contribuaient à la dissémination de ces graines, donc là, vous avez un reste de fruits, la largeur de la graine est supérieure à la largeur du plus gros bec de l'oiseau qui nous reste au-dessus de nos têtes.
Ça veut dire qu'aucun oiseau d'ici ne peut manger, avaler cette graine.
Et aucun animal actuellement n'est capable donc, de disséminer cette espèce. Si on se baisse un petit peu là ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a des plantules.
D'ailleurs une jeune pousse quoi.
Voilà, donc de cette espèce.
Au pied de l'arbre vraiment, c'est la graine est tombée.
Voilà, donc la graine ensuite a germé, vous avez une plantule. Mais si vous cherchez autour de vous, on se rend compte que par la suite, tout meurt. On se rend compte qu'il y a une limitation extrêmement forte et qu'on n'a plus que des vieux finalement dans la forêt. Et on n'a plus du tout, l'avenir de cette espèce dans la canopée n'est pas du tout assuré.
Cette forêt est un EHPAD.
C'est une métaphore qui est terrible mais qui est assez juste. Puisque les Anglais, ils parlent de « living dead ». Ils disent en fait...
C'est la forêt mort-vivante.
C'est la forêt mort-vivante, c'est une forêt qui n'a pas d'avenir. Il faut vraiment qu'on se mobilise sur ces questions-là. Quoi.
Et donc, comment faire pour essayer de redynamiser cette forêt endémique, c'est-à-dire, encore une fois, des arbres qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Voilà, donc, et donc on a fait, dans le cadre de nos travaux avec Dominique, nous-mêmes on s'est substitué à cette faune éteinte, on a simulé finalement le travail que faisaient ces...
Vous avez fait la tortue, le perroquet et la chauve-souris.
Exactement, c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes allés semer ces plantes et on a regardé que cette espèce, si vous prenez ces graines et que vous allez les semer, en fait, elle est tout à fait capable de se développer et de croître. Et donc, dans nos forêts, il faut qu'on se batte pour ça. Si on veut que la forêt, demain, ait un avenir, c'est la seule manière de pouvoir le faire efficacement, quoi.
Ça, c'est le
garde-le aussi, ça, c'est
top. T'as vu ce que c'était ?
Oui,
tout
ce que c'est. Effectivement, il doit en avoir d'autres, hein.
Moi, c'est qu'un baba banati, gain pas vasali, le gris. Moi, c'est qu'un baba banati, gain pas vasali, le gris.
Je reviens du monde d'avant. Sur France Inter.
Quand même, on est vraiment dans une carte postale, là. Il y a les collines, les contreforts de l'île qui descendent assez doucement, alors qu'ailleurs, c'est des falaises. Il y a un peu de plage de sable. Et je vois une frange de vagues qui correspond à la barrière, au récif.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, là, on est vraiment à La Réunion sur un spot, donc le spot de Trois Bassins, donc avec un récif corallien avec beaucoup d'usages. On voit notamment donc, des surfeurs à l'eau et des pêcheurs au loin. Et voilà, donc la problématique de La Réunion, c'est qu'on a un tout petit récif corallien avec beaucoup de gens. Et donc, du coup, il faut arriver à concilier les usages et la protection du récif. Et donc, c'est pas toujours évident, c'est toujours très conflictuel d'ailleurs même. Et donc, la réserve marine, qui est un bijou pour nous, c'est important pour la Réunion d'avoir cette barrière.
La Terre est recouverte de 70% d'océans, dont seulement 0,2% de récifs coralliens.
Moi, je suis chercheure, donc directrice de recherche à l'IRD et spécialiste des récifs coralliens.
L'écosystème récifal est, avec les forêts tropicales, l'écosystème le plus riche en biodiversité.
Je suis biologiste, à l'interface entre écologie et biologie.
À eux seuls, ils représentent 30% des espèces marines vivantes.
Pascal Chabanet, voilà pourquoi il faut vraiment faire attention, parce que simplement si ce récif est menacé, ça va avoir des conséquences, y compris sur l'activité des hommes,
bah, en plus de juste la biodiversité. C'est comme vous me disiez, là on est dans un décor de carte postale, c'est vrai, mais cette barrière a quand même un rôle essentiel, notamment pour amortir l'effet des vagues et donc protéger la plage et les habitations au bord de mer. Cette barrière sert aussi à la pêche, il y a des activités de pêche, donc il y a des activités économiques, des activités touristiques aussi. Si vous avez une barrière vivante, bah, pour le tourisme, c'est toujours beaucoup mieux. Et puis elle a aussi un rôle, évidemment, les récifs coralliens de manière globale, hein, pas que de la Réunion, sur l'atténuateur de changement climatique, puisque les coraux sont aussi des réservoirs, sont des puits de carbone. Donc tous ces rôles écologiques, sociaux, économiques sont quand même essentiels sur les récifs, donc c'est pas que la belle carte postale qu'on voit ici.
Un tiers des récifs coralliens a déjà disparu en quelques décennies. Un tiers supplémentaire va probablement disparaître d'ici 2050 en raison des impacts liés aux activités humaines.
Par contre, vous avez ces récifs qui sont très proches de la côte. Et vous imaginez que là, depuis 20-30 ans, il y a eu beaucoup d'urbanisation sur la côte ouest de la Réunion, parce que les récifs sont sur cette côte, d'urbanisation, construction de maisons, de routes, déforestation, etc. Donc dès que vous avez des grosses pluies, ou de la pluie tout simplement, toute cette eau va ruisseler et va apporter de la terre, des polluants, etc. dans les ravines. Et le corail est un animal extrêmement vulnérable, qui a horreur de la pollution, mais de manière générale, de l'eau douce qui ruisselle, mais aussi par les nappes phréatiques qui vont être de plus en plus riches en nitrates, phosphates, etc., tous les produits de notre consommation quotidienne.
Notre agriculture de plus en plus industrielle.
Exactement, voilà. Et du coup, vous allez avoir des récifs aujourd'hui qui sont dominés par les algues, qui prolifèrent dans ces milieux où vous avez des nitrates, phosphates. Donc c'est vraiment très favorable pour les algues, par contre mauvais pour les coraux. Donc en fait, notre récif, je veux dire, en une vingtaine d'années, il est passé d'un récif qui était dominé par les coraux à un récif aujourd'hui dominé par les algues. Donc du coup, évidemment, ça a des impacts sur l'écosystème en lui-même et puis sur les activités de pêche et aussi de protection de cette barrière.
Il est amer le goût des vagues. Il est amer le goût de la mer. Il est beau, le fond de corail, mais qu'il est beau, le monde de l'écaille.
Aujourd'hui se rajoute sur ces perturbations anthropiques, le changement climatique, avec des phénomènes El Niño de plus en plus fréquents qui va entraîner des phénomènes de blanchissement massif de coraux. Le corail a horreur des eaux chaudes, et donc il va blanchir et va être très vite colonisé ensuite par des algues. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces phénomènes sont de plus en plus fréquents et du coup, le récif a du mal à récupérer. Il faut compter une dizaine d'années pour qu'un récif se régénère. Et là, vous avez tous les 2-3 ans un blanchissement massif. Du coup, le récif va être moins résilient aussi parce que plus un écosystème est riche en espèces, en biodiversité, plus il sera capable de réagir à ces changements brutaux.
Et alors Pascal Chabanet, si la barrière de corail va mal, ce sera tôt ou tard les habitants de la Réunion qui iront mal aussi.
Exactement, et ça on le voit déjà aujourd'hui à l'échelle des 20 dernières années. Si vous allez par exemple sur les plages de l'Ermitage, vous verrez qu'il y a les filets qui se déchaussent. Donc on commence à sentir cet impact de l'érosion qui est dû à plein de facteurs, dont la dégradation des récifs, qui va moins construire de sable, en fait, parce que le sable blanc, c'est le produit de l'érosion. Et du coup, ça impactera les hommes. On est tous liés. Ça, c'est clair qu'on n'est pas, on est une espèce parmi toutes les autres espèces. Et si on n'a pas cette conscience, on n'ira pas loin. De toute façon, il faut réagir. Et je pense que l'homme n'a pas de futur sans cette prise de conscience. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour essayer de protéger ce milieu qui est essentiel pour les Réunionnais. Et puis vous voyez, c'est une zone qui est protégée. Là, vous pouvez aller vous baigner sans problème. C'est aussi c'est important. En tout cas, je pense que les Réunionnais, c'est un patrimoine pour lequel ils sont de plus en plus fiers. Et je pense que la majorité des gens veulent vraiment protéger ce récif pour les générations futures.
C'est dans la mer que j'ai gagné mon âme. C'est dans le fond de ce bleu infini. Et maintenant, je ne suis avec toi, ma compagne, qu'un peu de ce bleu venu se perdre ici. Il est amer le goût des vagues.
Sur France Inter, je reviens du monde d'avant.
Comme Pascal Chabanet, tous nos interlocuteurs nous le répètent. Il ne suffit pas de protéger la Réunion pour la préserver. Délimiter des zones sanctuarisées, même sur 42% du territoire, n'y changera pas grand-chose si nous ne consentons pas bel et bien à changer certaines de nos habitudes. Mais ça fait des années qu'environnementalistes et chercheurs nous alertent sur le recul de la biodiversité sans grand résultat sur nos comportements, malheureusement. Alors je me suis dit qu'il serait peut-être plus judicieux d'aller entendre les principaux concernés. Faute de pouvoir interviewer les crevettes pour savoir ce qu'elles pensent de la destruction de leur habitat, on peut par contre quand même les écouter. Car vous savez quoi? En plus de dynamiter des coraux et de massacrer des requins, le commandant Cousteau nous avait menti. L'océan n'a jamais été un monde du silence. Et il fait même beaucoup de bruit.
À la découverte d'un monde étrange, presque inconnu, le monde du silence.
Le monde du silence.
De nouvelles découvertes nous attendent au monde du silence.
Bonjour, je suis Simon Élise, chercheur en écologie marine et plus particulièrement en éco-acoustique. Donc éco, comme écologie, acoustique, donc l'utilisation du son pour des problématiques écologiques.
Ici la Réunion, t'es maman, nina, tuna.
Une jeune discipline scientifique, on l'appelle l'éco-acoustique.
C'est quoi exactement un éco-acousticien alors?
Ce sont des scientifiques qui captent les sons du vivant pour mieux le comprendre.
Pour essayer d'avoir des informations de suivi de la biodiversité.
Je suis venu vous voir, Simon Élise, parce que Cousteau nous avait menti. Le monde du silence n'est absolument pas silencieux.
Eh bien oui, il faut casser le mythe, ce qu'il y a sous l'eau est tout sauf silencieux, et c'est au contraire une véritable cacophonie, en particulier sur les récifs coralliens.
Et alors ça a quel bruit, le son du récif corallien ici à La Réunion?
Alors le son du récif corallien, c'est une espèce de chuintement continu, hyper présent, assez oppressant finalement, comme une radio mal réglée, en permanence. Et ça c'est le son qui domine les récifs coralliens du monde entier.
Et c'est ce qu'on entend là, ça ressemble un peu à quand il y a de la neige sur la télé.
Exactement. Et ce son, en fait, est produit par des milliers, des dizaines de milliers de petites crevettes, qu'on appelle les crevettes pistolets. Et chacune, en fait, va produire un claquement de sa pince. Et l'addition de ces claquements va créer cette neige. Donc il faut imaginer la quantité de bestioles qu'on a au même moment à produire ces claquements.
Alors ça, c'est assez fascinant, mais ça pourrait être le travail juste de chasseur de son. Sauf que vous en tirez des informations scientifiques.
C'est ça. Donc on en tire tout un tas d'informations sur le fonctionnement du récif, l'état de ce récif, sur la présence d'espèces en particulier. Donc pouvoir comparer comment vont tous ces sites, savoir où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas, où est-ce qu'il faut mettre le paquet maintenant, tout de suite, pour espérer sauver quelque chose dans les années qui viennent.
Alors justement, là, le premier son que vous nous avez fait entendre, est-ce que c'est un récif qui va bien ou qui va mal? Quelle conclusion on peut en tirer?
Le mieux, c'est même de comparer deux sons. Donc un premier extrait, là, on a beaucoup d'aigus, hein, cette neige, elle est très présente. Et un second extrait, ici, où là, la neige est un peu dissipée, et au contraire, on sent que ça travaille dans les graves, là, ça ronronne, ça marmonne, il se passe des choses. Et donc finalement, là, oui, là on peut dire le premier extrait n'est pas en super forme. Le deuxième, par contre, ça va beaucoup mieux. Plus les sons sont graves, plus ce sont des gros organismes, des grosses bestioles qui les produisent. Et donc plus ça va, puisque bon, l'homme a tendance à tuer un peu le plus facile, le plus gros, ce qui est le plus évident. Et donc plus il y a du gros, moins c'est impacté.
Donc plus on entend les crevettes, plus ça veut dire, paradoxalement, que le récif est mal en point.
C'est ça. Globalement, oui, le récif réunionnais n'est pas très en forme par rapport à ce qu'on peut trouver dans la région.
Les pressions cumulées s'exerçant sur ces récifs risquent d'affecter le renouvellement des populations de poissons.
Dans tous les milieux, les modifications, qu'elles soient climatiques, liées aux activités humaines ou à la pollution, entraînent toujours de forts changements acoustiques.
J'ai cru voir une baleine.
Oui, parce qu'on est face à la mer et c'est là où elle passe.
Face à la mer et là, au soleil couchant, et ben, on voit facilement les souffles de baleines là, à quelques centaines de mètres de la plage. Fabuleux.
Vous parlez justement des micro-crevettes, du bruit de fond du récif avec les poissons et tous les autres animaux qui y sont. Mais parfois, il y a, dans le paysage, il y a d'autres bruits comme celui-ci qui est celui du passage de baleine à bosse.
C'est ça, c'est la beauté de l'outil. C'est finalement qu'on va pouvoir à la fois écouter, enregistrer, analyser le récif corallien, mais aussi les perturbations qu'il va subir, donc les passages de bateaux, l'arrivée de plongeurs, des choses comme ça, mais aussi le passage d'une baleine à bosse. Et ça, c'est vrai que c'est des moments fabuleux, c'est beau à voir.
Alors là, j'entends le bruit de fond dont vous parliez, j'entends la baleine avec ce chant, et c'est quoi ce petit bruit-là qu'on entend, ce toc-toc-toc ?
Toc-toc-toc serait même un scrunch, scrunch. Ça, c'est les poissons perroquets. Ces poissons perroquets, ce qu'on entend, le scrunch, c'est leur bec, finalement. Ils n'hésitent pas à attaquer la matrice corallienne, hein, vraiment le corail en lui-même, à le croquer.
Là, il est fait quoi ? Pourquoi on l'entend si proche de votre prise de son ?
Alors là, donc notre hydrophone, il est installé sur un tripode, une structure métallique en aluminium, qui petit à petit se fait coloniser par des algues. Et donc le poisson perroquet, bah, c'est lui qui charge de l'entretien.
En train de cogner contre le pied du micro. Quoi.
Plus que cogner, il gratte avec son bec ce tube pour récolter les algues et les organismes associés. Et contribuer comme ça à la production de sable sur le récif.
C'est eux qui font les plages pour les touristes en fait.
Exactement, exactement. Donc préservons ces poissons perroquets.
Si le récif va mal, c'est pas que mauvais pour les poissons, c'est aussi mauvais pour les réunionnais.
C'est la connexion fondamentale qu'il y a entre la mer et la terre. Donc dans un sens, tout ce qu'on fait à terre a des répercussions sur ce qu'on fait en mer. Et...
C'est-à-dire l'agriculture, c'est-à-dire la bétonisation des terres, c'est-à-dire le détournement des eaux, c'est-à-dire les pesticides et les engrais.
C'est tout ça. Tout ça a un impact sur la santé du récif. Et à contrario, cette santé du récif, si elle diminue, ça aura un impact sur ce qui se passe à terre. Et à un moment, il n'y aura plus de récif. Donc les vagues qui, à La Réunion, peuvent être impressionnantes. Hein. On a régulièrement des houles de 4 mètres, 5 mètres. Donc il faut bien imaginer que ces houles de 4 mètres, 5 mètres, elles vont venir donc, balayer la plage là en quelques mois, quelques années. Et c'est ensuite toutes les plaines où sont à l'heure actuelle les zones résidentielles qui vont être inondées à terme. Donc il ne faut pas déconnecter, se dire c'est la mer, c'est le récif, peu importe. Ça impactera notre quotidien de demain, en fait.
Dernier mot sur la pollution sonore marine du fait des activités humaines.
Ça, c'est complètement incroyable. La première fois que j'ai enregistré un récif et que ensuite j'ai écouté mon enregistrement, l'enregistreur a été déclenché avant d'être mis à l'eau. Et donc j'ai pu direct me rendre compte du bazar que pouvait mettre un moteur, hein, même au ralenti, comme ça, au point mort en surface. C'est inimaginable. Le volume de son produit par un moteur est complètement incroyable. Et on se demande même comment les poissons restent aussi stoïques en dessous avec un tel barouf en surface. Donc la pollution sonore, elle est complètement hors de notre imaginaire. Quoi. On n'imagine pas à quel point c'est puissant. Quoi. Donc je pense que si on faisait écouter un peu à tout le monde là ce qui se passe quand un bateau passe, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui iraient un peu plus mollo sur la manette des gaz du moteur. On est d'accord.
Je
Je reviens du monde d'avant. Plongé dans le corail réunionnais.
Qui dans la mer, nana poisson. Qui dans la mer, nana poisson. Qui dans la mer, nana poisson. Un poisson rouge qui l'a qu'est doré.
Qui dans la mer, nana poisson. Un poisson rouge l'a doré.
Allô, allô. Vous m'entendez?
Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, si le son est moins bon que d'habitude, c'est juste que ce sont des conditions de prise de son un peu particulières. C'est parce qu'on est avec un masque au milieu des coraux. Et j'ai face à moi un poisson avec des rayures qui rendent toutes les nuances de pastel et un long bec qui me regarde là, tranquillement et qui est en train de brouter au milieu des coraux de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ça, c'est grâce à vous, Lala Massé, qui est chercheuse, spécialiste des coraux ici à La Réunion. Ah, on est où en ce moment même?
Alors, on est sous l'eau. Dans le lagon de Salines-les-Bains à La Réunion. C'est génial d'être dans cet environnement-là, pouvoir parler, s'entendre et puis regarder les plateformes autour de
nous. Et j'ai un peu l'impression de piétiner les plateformes de ce brave Nicolas Hulot, ministre démissionnaire de l'Environnement.
C'est une plongée dans le grand bleu, tout à fait exceptionnel.
C'est-à-dire
que le
paysage, on a l'impression d'être dans un aquarium tropical.
Et l'on progresse, un mouvement lent de palmes.
Dans une eau turquoise, il y a d'énormes poissons avec un masque noir et blanc, très beau.
C'est un poisson papillon et celui-là on l'appelle le poisson papillon raton laveur, parce qu'il a ce masque noir qui fait penser à un raton laveur. Et ils cherchent des choses à manger dans cette fameuse barrière de corail. À La Réunion et dans les îles tropicales, la barrière de corail, elle est vraiment très importante. C'est l'endroit où les coraux bloquent les vagues qui arrivent du large.
Quel est l'état de cette barrière ici? Alors, on voit là, il y a beaucoup de corail cassé par terre. Il y a beaucoup de corail recouvert d'une petite couche d'algues.
Et ces algues, c'est des indicateurs de pollution.
Et sous la splendeur de ces eaux cristallines, une vie sous-marine, lentement asphyxiée par le réchauffement des océans.
15% des espèces de coraux de La Réunion sont menacées.
Il y a certaines espèces de coraux qui ont quasiment disparu, malheureusement à cause des pressions humaines, les pollutions, le piétinement, la surpêche.
Ce phénomène de blanchiment est aujourd'hui observé dans toutes les mers du monde. Or, les coraux sont les poumons de tout l'écosystème marin.
Donc les récifs coralliens à La Réunion, ils n'échappent pas à la détérioration globale des récifs de manière générale. Il y a pas mal de menaces qui guettent cette barrière de corail. Mais nous, surtout à La Réunion, on a des gros problèmes de pollution. Depuis quelques années, chaque année, quand c'est la saison des pluies, on a des coulées de boue dans le lagon. Et ces coulées de boue, elles ne sont pas normales. Je pense qu'elles sont liées à toute l'urbanisation qui se passe sur la montagne à côté. Lorsqu'on coupe des arbres, qu'on les remplace par des parkings ou par des routes, en fait, c'est des zones où la pluie s'accélère et ensuite elle va ramasser toute la terre avec elle, ce qui va couler dans le lac. Et sur le récif de Saint-Leu, on a estimé que la dernière grosse coulée d'eau, elle a tué 90% des coraux du lagon.
90% des coraux?
90% des coraux. Et bien la terre reste sur les coraux et les fait mourir.
Il est temps de dire au revoir à tous ces poissons là qui se soucient toujours pas de nous, mais que je vous avoue Lola, j'ai pas envie de remonter à la surface.
On est bien là, en plus il fait bon dans l'eau, on n'a pas froid. On aimerait bien rester toute la journée à regarder comme ça les poissons autour de nous.
Allô, allô? Je vous entends plus.
J'avoue, j'ai failli ne pas revenir à la surface. Ah,
C'est sûr qu'avec ses 25 km de coraux, on est loin de la grande barrière d'Australie. Mais sur la côte ouest de la Réunion, c'est toute la biodiversité du lagon, ses plages de sable blond et les activités économiques qui dépendent de ces coraux. Raison de plus pour penser le développement autrement, comme on le verra la semaine prochaine. Merci encore mille fois à Lola Massé, Pascal Chabanais, Simon Élise, Jean-Philippe Delorme, Dominique Strasberg, Sébastien Albert et toutes celles et ceux que je n'ai pas le temps de citer qui nous ont guidés. Clément Nouguier était à la réalisation, Martine Abba et June Loper au montage et Mister Juke s'est occupé de la programmation musicale.